L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Maintenant, êtes-vous prêts à aller dans la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ton amour. Pour ton pardon, Seigneur Dieu, pour ta grâce pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on peut se cacher en toi. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on ne se présente pas devant toi dans notre propre justice. Mais, Seigneur, nous sommes présentement cachés en toi, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton Saint-Esprit qui est ici aujourd'hui, qui va nous enseigner ton cœur pour les couples. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit qui restaure aujourd'hui, qui délivre. Merci, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Ce matin, le thème, c'est un mariage heureux. Et vous savez, dans notre société, il y a toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées sur le mariage, et il y a toutes sortes d'expériences aussi. Et les gens, parfois, arrivent dans les églises, et puis ils connaissent pas vraiment la pensée de Dieu, parce qu'on entend tellement peu parler, on connaît plus vraiment comment marcher dans la vie chrétienne au niveau, plein de niveaux finalement. Faut vraiment tout réapprendre quand on devient un enfant de Dieu, parce que dans la société, on véhicule pas les valeurs de Dieu. Et des fois, quelqu'un accepte le Seigneur, et là, marche avec le Seigneur pendant un temps, se marie, mais là, il y a toutes sortes de conflits. Et une des choses, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est si on vit dans notre vie chrétienne sans être renouvelé avec les principes de Dieu, même si on est un enfant de Dieu, si on n'a pas vraiment appris comment marcher dans un couple, mais avec la pensée de Dieu, on peut marcher comme dans notre mariage, comme dans le monde, et on ne sera pas heureux. Et c'est ça qui se passe souvent dans les couples chrétiens. Savez-vous que les statistiques dans le monde chrétien, c'est aussi terrible que dans le monde païen, dans le monde qui ne connaissent pas Dieu? Il y a autant de divorces chez les chrétiens qu'il y en a dans le monde. Et pensez-vous que selon Dieu, c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Il devrait pas avoir autant de divorces. Il devrait pas en avoir du tout finalement. Si on pouvait tous marcher selon Dieu, c'est sûr, hein? Mais je suis en train de vous dire, on doit réapprendre à découvrir les principes de Dieu. On doit carrément les apprendre si on n'a jamais entendu parler des principes de Dieu pour un mariage heureux. Et j'ai la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Si vous êtes sensible au Saint-Esprit et si vous avez l'humilité de vous laisser enseigner par Dieu, vous pourrez grandir dans votre couple, vous pourrez être délivré. Si vous dites, ben moi je suis pas marié, mais si vous avez un peu de mémoire, quand viendra le temps de vous marier, vous allez vous rappeler, ah, c'est comme ça que je devrais agir. Amen. Ou vous pourrez réécouter le CD avant de vous marier. Mais une des choses, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment être humble et se laisser enseigner par Dieu. Parce que l'objectif, le but aujourd'hui, c'est pas juste d'avoir ou de recevoir de la connaissance. Notre objectif, c'est d'aller à un autre niveau dans votre couple, dans votre mariage. Le Seigneur veut vraiment bénir votre mariage. Et vous allez peut-être dire, mais pourquoi on parle de ça à l'église? Bien, c'est vraiment la place où on devrait en parler. C'est la place où on devrait vraiment connaître. Si vous avez remarqué, habituellement, les mariages, c'est béni par un pasteur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Avez-vous déjà écouté des films? Si vous n'avez jamais été invité à un mariage, avez-vous déjà vu dans un film, il y avait un curé, un pasteur, dans le fond de l'église? Et là, il y avait une femme habillée, déguisée en blanc. Elle descendait l'allée. Ça, c'est un mariage. C'est un mariage. Et puis, c'est ça. Déguisé, oui. Mais tout ça pour vous dire, ça nous appartient. C'est à nous, les enfants de Dieu. On devrait connaître les principes de Dieu pour le mariage. Et comme on met ces principes-là en opération dans nos vies, on va littéralement voir nos vies changer dans nos couples. Donc, si vous êtes humble aujourd'hui, vous êtes prêt à apprendre des choses. Mais si vous connaissez tout, ben gloire à Dieu, soyez bénis. Mais si vous dites, j'ai de la place peut-être à l'amélioration dans ma vie de couple, ben gloire à Dieu, vous êtes à bonne place. Marc chapitre 10, versets 6 à 8. Au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. Dites homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Dites femme. Pas à ses femmes, pas à son homme, à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un, ou dans Louis II, ça dit les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Ici, nous voyons la base. Et ce qu'on va faire pendant quelques instants au début du message ce matin, on va voir des clés élémentaires, la base, vraiment les clés élémentaires d'un mariage heureux. Et par la suite, on va voir d'autres clés qui sont un peu moins élémentaires, qui vont peut-être être des nouvelles clés pour vous. Vous allez peut-être apprendre, je l'espère. Mais ici, une des choses, si on veut avoir un mariage heureux, la première chose qu'on doit découvrir, c'est qu'on doit avoir un mariage chrétien. Amen. Un mariage chrétien entre un homme et une femme. Et vous savez, dans la société, il y a toutes sortes de pensées, mais ici, on dit, selon la parole de Dieu, un homme et une femme. Pas deux femmes ensemble, pas deux hommes ensemble, pas un homme avec cinq femmes. Vous savez, il y a une émission en télévision, il y a un homme avec quatre femmes. Ma femme a dit quatre. C'est un homme avec quatre femmes. La Bible nous dit, c'est un homme avec une femme. Gloire à Dieu. C'est simple, hein? C'est simple à retenir, mais dans la société, on a de la difficulté à ce niveau-là. Mais un mariage chrétien qui est béni de Dieu, premièrement, si vous voulez être heureux dans votre couple, heureux dans votre mariage, vous devez être marié selon Dieu. Donc, la première chose ici que nous venons de voir, c'est justement ça. Et là, une des choses que je trouve remarquable, c'est que Dieu a créé l'être humain, homme et femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Remarquez, c'est dit l'homme quittera. Et parfois, quand on a des difficultés dans le couple, c'est que l'homme ou la femme n'a pas vraiment quitté ses parents. Ok, l'homme n'a pas quitté vraiment le foyer, et des fois, l'homme reste dépendant sur la mère ou le père, ou des fois, c'est la femme qui reste dépendante sur la mère, et puis, il n'y a pas un détachement, et des fois, au lieu d'être mariés, ok, l'homme et la femme mariés ensemble, des fois, il y a la belle-mère dans le portrait. Des fois, il y a le beau-père dans le portrait. Et le beau-père est là pour gérer le couple, ou la belle-mère est là pour gérer le couple. Mais selon Dieu, ça nous dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il l'appellera plus. Hein? Ah ben là, je te quitte et c'est fini là. Non. Mais l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, on doit respecter le couple qui fait vraiment un. Donc, une des choses, si vous voulez être heureux dans votre couple, assurez-vous d'être marié juste avec une personne. Et c'est sûr que quand vous avez de la famille, c'est sûr qu'il va toujours avoir une belle-mère, un beau-père qui vont faire partie de notre vie. Et c'est pas un moins, c'est un plus. Mais dans l'ordre de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre à l'extérieur du mariage qui va venir gérer votre vie. Amen. Donc, c'est merveilleux, tout le monde est d'accord. Dieu a institué le mariage dans le jardin d'Éden et Jésus l'a honoré par sa présence aux noces de Cana. Donc, c'est vraiment quelque chose de sacré et d'important pour nous aujourd'hui d'en parler, le mariage chrétien. Donc, la première chose, un mariage chrétien doit être entre un homme et une femme et vraiment comprendre ce que je viens de vous dire ici. Un mariage chrétien aussi, c'est entre deux croyants. Un mariage chrétien heureux, c'est entre deux croyants. Si vous dites, bien moi, je suis marié avec une personne qui ne connaît pas Dieu, qui veut rien savoir, bien quand on s'est déjà marié, et puis admettons, on n'était pas sauvé quand on s'est marié, bien ça, c'est une chose. Mais le Seigneur nous donne déjà aussi une prescription comment vivre, et on va en parler aujourd'hui. Donc, des fois, on se retrouve dans une situation où on a accepté le Seigneur, et ça, c'est la plus grande bénédiction de notre vie. C'est merveilleux, mais peut-être, admettons, si ma femme n'avait pas accepter le Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la mets dehors? Non. Hein? Je continue à marcher avec ma femme autant et aussi longtemps qu'elle veut rester avec moi. Et bon, sauf que là, je vais marcher dans les voies de Dieu, priant pour ma femme. Comprenez-vous? Donc, c'est normal. Mais ici, qu'est-ce qu'on va voir? Si on veut vraiment bâtir un foyer heureux, si on veut bâtir un mariage, travailler dans un mariage heureux, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on veut bâtir avec les bons fondements. Et vous savez, Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de faire des miracles dans des couples, et certainement, il fait. Mais on ne devrait pas commencer notre vie de couple, sachant que la personne ne veut rien savoir de Dieu. On ne devrait pas se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. C'est très important. Et vous allez voir pourquoi. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, je vous invite à aller là, dans 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 14. Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien. Ça dit, ne vous mettez pas avec les infidèles ou des incroyants sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou le péché? Comme c'est quasiment du québécois ici. Mais c'est quoi le rapport? Hein? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun? Vous savez, Mathilde et moi, on est mariés depuis 13 ans. On est béni, on est un couple béni. On s'est marié dans le portique. Non, on s'est rencontré dans le portique de l'église. On s'est marié à l'église, faire la suite. Mais on s'est rencontré dans le portique de l'église. Mes parents aussi se sont rencontrés à l'église. C'est une bonne place où trouver votre mari, votre épouse. C'est vraiment une bonne place. Parce que vous allez retrouver quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est sûr, si vous fréquentez les bars et là, vous dites, ben, j'essaie de trouver l'homme idéal ou la femme de Dieu remplie du Saint-Esprit, vous cherchez probablement à la mauvaise place. OK? Mais l'affaire est, si vous voulez vraiment quelqu'un passionné pour Dieu, vous risquez de trouver cette personne-là à l'église. Ça se peut aussi dans un pique-nique annuel, hein, des choses comme ça. Mais ici, c'est juste pour vous dire, qu'est-ce qu'il y a de rapport entre la lumière et les ténèbres? Dans le ministère, dans l'appel de Dieu sur ma vie, si j'avais une femme qui voulait rien savoir de Dieu, ça serait vraiment difficile pour moi d'aller de l'avant. Savez-vous ça? Ça serait difficile. Si à chaque fois que j'allais à l'église, « Ah, t'es encore à l'église? Mon Dieu, c'est chaque dimanche matin? Là, je suis obligé de peigner les filles puis tout ça, là. » Mais ça me tente pas. Là, ça serait toujours un combat. Hein, je peux vous illustrer toutes sortes d'affaires. Mais c'est donc bien fatigant. Encore une réunion de prière. Mais pourquoi il se rappelle plus de tes prières? Hein? Vous pourriez avoir toutes sortes de combats comme ça. Au lieu de travailler ensemble, il y en a un qui tire d'un côté, puis l'autre d'un autre côté. Ceci dit, Dieu est capable d'aller toucher la personne qui ne connaît pas encore Dieu, et la personne peut recevoir le Seigneur et avoir la même vision que vous, être dans la joie et dans l'amour. Tout ça, c'est possible. Dieu est capable de sauver. Amen. Donc, on croit ça. Mais on ne devrait pas bâtir notre vie en partant si on sait que la personne ne veut rien savoir de Dieu. Parce que pour nous, si Dieu est notre vie, la personne, finalement, ne veut pas de votre vie. Elle ne veut pas partager votre vie, finalement. C'est ça veut dire. Donc, un mariage chrétien, c'est entre deux croyants, deux personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui veulent aussi marcher dans les voies de Dieu. Amen. Je vous donne des choses juste de base, là, présentement. Un mariage heureux, c'est un mariage chrétien ayant Christ comme chef. Christ comme chef. Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Ou en Louis II, ça dit, la corde à trois fils ne se rompt pas si facilement. Pas facilement. Une corde à trois brins. Ici, on parle, c'est plus fort. Un mariage, je vous ai dit au début, c'est entre un homme et une femme, mais aussi, on doit dire, entre un homme, une femme et Dieu. Dieu doit faire partie du mariage chrétien, un mariage vraiment heureux. C'est pour ça, quand on se marie devant Dieu, on est en train de dire que Jésus est le chef de notre foyer. Jésus est vraiment celui qui est au centre de notre foyer. On veut plaire au Seigneur, on veut vraiment faire en sorte que notre vie puisse être un parfum agréable à Dieu. Donc, on va marcher dans ses voies. On va se garder pur jusqu'au mariage. On va marcher dans l'honneur du Seigneur dans notre vie à tous les niveaux. C'est sûr, on est des êtres humains. Il n'y a personne qui est capable de vivre parfaitement. Ça donne qu'il y a des gens qui chutent, hein? On chute tous à un moment ou à un autre. Mais quand on est honnête devant Dieu et notre cœur est vraiment sincère et on veut honorer le Seigneur, ben, quand on tombe, on se relève puis on demande pardon et le Seigneur est gracieux. Il nous pardonne. Amen. Donc, vous comprenez ça. Mais notre cœur est là. On dit, je veux servir le Seigneur et je veux que le Seigneur soit le chef de notre mariage, soit vraiment celui qui est la priorité. On veut bâtir notre couple, notre mariage autour du Seigneur. Et une des choses qu'on doit comprendre, c'est ici, quand on fait des mariages, c'est vraiment toujours dans l'optique que le Seigneur va bénir le couple. On va jamais unir un homme et une femme qui ne sont pas chrétiens. On fera jamais ça. Vous savez, il y a des gens qui viennent des fois aux églises qui disent, ben nous, on veut se marier, mais c'est super, mais on veut marier des gens, premièrement, qui sont de cette église et des gens qui aiment le Seigneur et qui sont vraiment sauvés, qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur. Et vous allez dire, oui, mais pourquoi c'est important? Bien, pour moi, je peux pas relâcher ma foi et bénir un couple qui ne sont pas des enfants de Dieu. Je peux pas vraiment relâcher et dire, oui, je bénis ce couple-là quand les gens ne sont même pas intéressés de marcher avec Dieu. Comprenez-vous? Est-ce que ça fait du sens? En tout cas, si ça ne fait pas de sens, c'est quand même ça qu'on fait. On bénit des chrétiens qui aiment Dieu. Et une des choses, on n'est pas une agence de mariage. Si vous voulez vous faire marier, vous pouvez aller voir un Elvis à Las Vegas. Hein? Vous pouvez aller voir un Elvis, même il y a des mariages au volant, comme au Big Mac, vous allez là puis ils font un mariage comme ça. Mais pour nous, c'est sacré. C'est pas Elvis qui vient vous marier avec sa guitare puis ses souliers bleus. Non, quand on se marie devant Dieu, c'est vraiment sacré, c'est une alliance devant le Seigneur et on s'engage l'un envers l'autre, qu'on va rester ensemble, on s'engage, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est jusqu'à la mort nous sépare, c'est vraiment pour toute notre vie. Donc, on se marie devant le Seigneur, c'est ça qui est important. Donc, on n'est pas une agence. Et des fois, les gens peuvent peut-être trouver ça spécial parce qu'on n'agit pas nécessairement comme toutes les autres églises. Mais c'est pour ça qu'il y en a d'autres. S'ils veulent se faire marier et ne connaissant pas le Seigneur, ça, c'est leurs affaires. Et c'est la nôtre aussi. Gloire à Dieu. Un mariage chrétien possède les valeurs de Dieu. Donc, dans Hébreu 13, vous pouvez aller dans ce texte, dans Hébreu 13 et le verset 4. Ici, ça nous parle que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dans la Bible Sommaire, ça dit que chacun respecte le mariage et que les deux époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, un chrétien heureux, et un mariage heureux plutôt, mais un mariage heureux, c'est un mariage où les gens, le couple, l'homme et la femme, veulent honorer le Seigneur en marchant dans la loyauté envers Dieu et envers le conjoint. Donc, ça fait du sens. Quelqu'un qui se marie, qui veut vraiment être heureux, n'ira pas à droite et à gauche avec d'autres personnes. Ici, on parle de l'intimité sexuelle. Un homme qui a marié une femme, qui s'est engagé devant Dieu, va demeurer fidèle à son épouse. Amen. Une femme qui s'est engagée envers un homme, elle s'est mariée avec cet homme-là, elle n'ira pas avec d'autres hommes. Amen. Donc, quand on s'est marié, on s'est engagé, on a les valeurs de Dieu, on s'est promis fidélité, loyauté, et on veut marcher justement dans la loyauté et dans l'honneur comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Une des choses, des fois dans le monde religieux, on pense que c'est la chasteté même après le mariage et que c'est seulement que l'intimité sexuelle est là juste pour avoir des enfants. Ça, c'est faux. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que Dieu bénit le mariage. Puis qu'est-ce qui est merveilleux? Et ça dit que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Dieu ne veut pas l'adultère dans le couple, mais Dieu bénit le couple qui est en amour avec le Seigneur et en amour avec notre conjoint-conjointe. Donc, une des choses, le Seigneur bénit le couple et le lit conjugal sans exempt de souillure. Donc, ça veut dire il n'y en a pas de souillure quand on est marié. Comprenez-vous ça? Donc, c'est tout à fait juste ici la volonté de Dieu qu'on comprenne ces choses-là. Dieu bénit le couple qui veut marcher dans les voies de Dieu. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce que je vous ai donné? C'est des choses vraiment élémentaires, mais parfois, dans le monde dans lequel nous vivons, les gens ne connaissent pas ces choses-là. Une des choses, on se garde pur jusqu'au jour de notre mariage. Ça, c'est une des choses qu'on doit comprendre et c'est possible. Je peux vous dire, c'est possible encore dans notre génération de marcher selon les voies de Dieu. Si vous dites, oui, mais moi, c'est pas mon cas, bien, heureusement, le sang de Jésus peut vous purifier aujourd'hui. Okay? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ça demeure que lorsque nous avons marché dans le péché, si vous êtes un enfant de Dieu et vous avez commis des péchés comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent les souvenirs reviennent. Et ce que vous voulez faire, c'est enlever ces souvenirs-là et les remplacer par la pureté de la parole de Dieu. Vous laissez laver par la parole de Dieu. Mais si vous vous gardez pur, vous n'aurez pas de souvenirs à combattre. Savez-vous, c'est ça qui est merveilleux. Si vous avez déjà comme compris le message du salut, vous avez donné votre vie au Seigneur et vous avez décidé, moi je veux marcher dans la pureté toute ma vie, bien gloire à Dieu, le combat est beaucoup plus facile. Amen. C'est plus facile si vous n'avez pas de souvenirs, si vous n'avez jamais rien fait de mal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, premier point qu'on a vu, les clés élémentaires, un mariage chrétien, c'est entre un homme et une femme, entre deux croyants, avec Christ comme chef et possédant les valeurs de Dieu. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? C'est être véritablement et sérieusement engagé. Et le message aujourd'hui se veut comme en deux volets, on va voir un autre volet prochainement, mais être véritablement et sérieusement engagé l'un envers l'autre. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à tourner dans Malachie chapitre 2, verset 16. C'est un livre dans l'Ancien Testament, comme vous savez, on ne va pas là souvent, mais dans Malachie chapitre 2 et le verset 16, nous retrouvons ici l'importance d'être engagé dans notre mariage. En passant, on va parler du divorce et remariage, on va brasser toutes sortes de choses pour stimuler les conversations à dîner. Malachie chapitre 2, verset 16, lisant dans la Bible du Sommaire, « Car je hais le divorce, déclare l'Éternel Dieu d'Israël. » Quand on se marie, c'est pour la vie. Et Dieu est le divorce. Dieu est contre le divorce. Mais une des choses qu'on doit comprendre, c'est que des fois, les gens pensent que Dieu haït le divorcé. Et c'est ça qu'on doit rétablir dans le corps de Christ. On doit comprendre que Dieu n'est pas pour le divorce, la séparation. Il n'est pas pour le péché qui cause un divorce en passant. Dieu n'est pas pour ça. Mais en même temps, Dieu, c'est pas celui qui tourne la page sur quelqu'un et qui dit, toi, t'es rendu une personne de deuxième classe et je veux plus rien savoir de toi. Heureusement, notre Dieu n'est pas comme certains prédicateurs. Vous avez dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai rencontré un pasteur qui me racontait que sa fille s'était divorcée, puis il dit, maintenant, elle est rendue une chrétienne de deuxième classe. Elle ne pourra plus jamais rien faire dans l'Église parce qu'elle est une chrétienne de deuxième classe. Et je ne retrouve pas ça, moi, dans la parole de Dieu, des chrétiens de deuxième classe. Je n'en retrouve pas, moi. Ici, mais qu'est-ce qu'on doit vraiment établir? Dieu ne veut pas le divorce et Dieu n'aime pas le divorce. Et là, dans Marc, chapitre 10, verset 9, dans la Bible du Sommeur, ça dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est le cœur de Dieu. Je vous présente tout simplement le cœur de Dieu. Donc, quand on se marie avec quelqu'un, des fois, je pose la question dans des cours de préparation au mariage, je dis, croyez-vous que c'est important pour vous de donner chacun 50-50% dans votre mariage? Et la majorité des temps, du temps, les gens vont dire, absolument, on veut chacun donner 50-50. Mais finalement, Dieu ne nous demande pas de donner 50-50, Dieu nous demande de donner 100%, chacun 100%. On donne tous notre 100%, on est engagé, c'est pour la vie. Et des fois, même s'il y a des contretemps, même si des fois les gens disent « Oui, mais il est plus pareil, elle a changé. » Mais ça ne dérange pas, Dieu savait qu'il était pour changer. Et Dieu savait que peut-être c'était juste votre vision qui était pour changer, qu'elle a toujours été comme ça, mais vous ne saviez pas où vos yeux étaient trop fermés. Mais là, vous êtes engagé, donc votre responsabilité, c'est de travailler dans votre couple et vous assurer d'aller dans les voies de Dieu. Donc, la vision du mariage, c'est pour la vie et c'est 100%. Amen. Et aussi, votre mariage, selon Dieu, avec les valeurs de Dieu, est fondé sur l'amour. L'amour véritable, pas l'amour comme dans la société. Dans la société, on va parler de l'amour par des sentiments. Je me sens en amour, j'ai des frissons, j'ai toutes sortes d'émotions, puis c'est le fun, c'est merveilleux d'avoir des frissons, puis toutes sortes d'émotions. Mais il y a des matins où vous allez vous réveiller et vous n'aurez pas ces sensations-là, vous n'aurez pas nécessairement des petits papillons en dedans, et ça se trouve que vous êtes encore marié. Comment allez-vous réagir si les petits papillons ne sont pas là un matin? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez comprendre que l'amour véritable, c'est un choix. Dites un choix. Quand on s'est marié, c'est un choix. C'est un choix d'aimer. C'est certain qu'on peut avoir une vision négative et voir tous les défauts chez la personne. Et dire, ben là, j'aime pas ça. Et comme on se remplit de commentaires ou on se concentre sur le négatif, on va juste voir le négatif. Mais si on prend la décision et on choisit d'aimer, comme Dieu nous appelle à aimer, on va continuer à apprécier les choses positives chez la personne. Ça, c'est super important. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que l'amour véritable, c'est un choix. Et c'est merveilleux. Des fois, on peut avoir les papillons, on peut triper puis être super en amour, puis il y a d'autres fois où on ne ressent pas, mais on doit continuer dans le bon chemin avec Dieu, avec notre mari ou notre épouse. Gloire à Dieu pour ça. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais finalement, on n'est pas fait pour être ensemble. J'ai découvert après mon mariage, on n'est pas fait pour être ensemble. Je peux vous dire, si vous croyez ce scénario-là, vous croyez cette phrase-là, vous ne réussirez pas votre mariage. Parce que si vous croyez que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ça veut dire, à quelque part, vous t'offrez pas, comme on dit en québécois. Vous serez pas capable d'endurer la course ou de poursuivre dans votre mariage. Donc, c'est une croyance vraiment qui va détruire votre couple si vous croyez on n'est pas fait pour être ensemble. La réalité, si vous êtes ensemble, si vous êtes mariés, comprenez, vous êtes mariés et vous devez choisir de bâtir votre couple. Vous devez choisir de vous investir dans votre couple et dans votre cœur. Amen. Avec cœur. Donc, Dieu vous appelle à célébrer votre union et de trouver des façons pour vraiment le travailler pour que vous puissiez être heureux. Donc, peut-être vous dites, oui, mais on n'est pas fait pour être ensemble, mais vous êtes ensemble. Donc, travaillez et invitez le Saint-Esprit à faire des miracles dans votre couple. Continuez à relâcher votre foi et Dieu va intervenir dans votre couple. Amen. Vous savez, Dieu est béni par la foi. Donc, vous savez, moi, je peux vous raconter des témoignages de mariages transformés. Un mariage, un couple que j'ai connu, ça allait vraiment pas bien, mais ils ont décidé de s'accrocher à Dieu. Et même la femme ne ressentait aucun sentiment d'amour pour son mari. Elle dit, je me sens même pas en amour avec, je l'aime même plus. Mais cette femme-là a commencé de relâcher sa foi et Dieu a fait en sorte qu'elle a commencé à ressentir à nouveau les émotions et Dieu a fait des miracles. Si on est dans une position de foi, Dieu est capable d'agir et Dieu est capable d'intervenir dans votre couple. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Là, je vous ai dit le cœur de Dieu. Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Mais peut-être vous dites, oui, mais ça, c'est pas ma réalité. Ça se trouve que moi, je suis divorcé et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, gloire à Dieu, on va voir cette bonne question-là ensemble. La question sur le divorce et le remariage. On va voir ensemble, il y a deux causes pour le divorce, deux causes qui permettent le divorce selon la parole de Dieu. Et on va voir par la suite comment on peut progresser et aller à l'autre niveau si on s'est divorcé. Parce que vous savez, dans notre société dans laquelle nous vivons, nous voyons qu'il y a plusieurs couples qui sont divorcés et remariés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui arrivent à l'église? Est-ce qu'on dit, comme le pasteur que je vous ai mentionné, qui dit, ben, c'est des gens de deuxième classe? Non, on dit pas ça parce que avec Dieu, il n'y en a pas de chrétiens de deuxième classe, parce que si nous avons été pardonnés par le sang, nous avons été totalement lavés, bien le sang de Jésus purifie complètement. Il n'y a jamais comme 99% de lavage. Non, c'est 100%, totalement lavé. Mais on doit comprendre qu'il y a des causes légitimes pour un divorce. Et la première cause, c'est dans Matthieu 5, verset 32, où l'alliance du mariage a été brisée par l'infidélité, l'adultère, dans Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui expose une femme répudiée commet l'adultère. Là, ici, qu'est-ce qu'on voit? Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Qu'est-ce qu'on veut voir ici? Qu'est-ce qui est important? C'est que si une personne dans le couple, l'homme ou la femme, est allée dans le péché, bien, cette personne-là a vraiment brisé la confiance dans le couple. Il y a eu l'adultère. Bien, la personne, la victime a le droit de se divorcer. Et là, on comprend, et on comprend ici certainement que la personne peut choisir de pardonner aussi. Vous savez, des fois, il y a des couples où le mari ou l'épouse sont allés dans le péché, ils ont trahi leur épouse, leur époux. Il y a une brisure. Mais aussi, quand il y a une repentance, ça ne veut pas dire automatiquement que vous êtes obligé de vous divorcer. Il y a des couples qu'on connaît, qui ont vécu ça justement, le mari est adultère, la femme l'a appris, elle était brisée, déchirée, mais vous savez, elle a choisi de pardonner. Il y a des gens dans les églises qui disent, non, ben divorce-le, regarde, là, une fois qu'il a triché, il va toujours tricher. Mais selon Dieu, on peut croire pour des meilleures choses, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est capable de pardonner quelqu'un qui a chuté comme ça? Oui. Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui. Est-ce que la confiance est là comme ça? Non. Il va y avoir des conséquences quand quelqu'un brise la confiance, mais Dieu est capable de restaurer. Donc, s'il y a eu l'adultère, s'il y a eu toutes sortes de choses, des brisures dans votre couple, Dieu est capable de restaurer. Mais ici, Dieu permet le divorce si ça s'est produit. Faut comprendre ça. Donc, ça, c'est une cause légitime. Une autre cause, c'est l'abandon ou désertion. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 13 et verset 15, on va lire dans Bible du Sommeur. Ça dit ici, de même, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Je vais le relire. Demain, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Donc, une femme est mariée avec un incroyant, il marche pas avec Dieu, mais qu'elle reste avec. Et c'est la même chose pour un homme. Si un homme est croyant, sa femme n'est pas croyante, si elle veut rester avec, ben qu'ils restent ensemble. Verset 15, c'est dit, « Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. » Donc, si on voit que l'alliance du mariage est brisée, elle se dit, le frère ou la sœur n'est pas lié, Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. De toute façon, si quelqu'un veut vous divorcer, vous met dehors, même si vous dites, mais je veux pas, quand la personne a décidé et puis elle remplit les documents de divorce, c'est en dehors de votre contrôle, n'est-ce pas? Donc, ici, on voit l'adultère, désertion, c'est deux raisons. Mais il y a souvent la question qui revient, oui, mais une femme battue, est-ce qu'elle doit rester dans une situation comme ça? Vous savez, moi, je crois que Dieu c'est un Dieu de compassion. Et comme on a vu, Dieu vous appelle à vivre dans la paix. Moi, je crois pas qu'une femme qui se fait battre par son mari devrait rester dans une situation comme ça et se faire tuer même. Il y a des hommes tellement violents. Vous savez, on doit juger de sagesse et évaluer les situations. Mais une femme qui se fait battre, je ne crois pas que Dieu veut qu'elle reste dans une situation comme ça. Donc ça, c'est ma position et gloire à Dieu. Mais tout ça pour vous dire, si vous êtes divorcé et remarié aujourd'hui, une des choses que vous devez comprendre, si vous voulez être heureux dans votre mariage aujourd'hui, bon, vous avez été divorcé, remarié aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation-là, vous devez croire que Dieu a béni votre mariage et ne pas remettre en question votre mariage aujourd'hui. Parce que si vous marchez dans le doute, pensant toujours, ben peut-être Dieu voulait pas si, c'est sûr que Dieu ne voulait pas un premier divorce. C'est sûr parce que le premier divorce, savez-vous, il y a eu un péché là-dedans. Il y a quelqu'un qui a brisé la confiance de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas honoré les vœux du mariage, n'est-ce pas? S'il y a eu un divorce, c'est sûr qu'il y a eu un péché à quelque part. Pas nécessairement de vous, mais quelqu'un a fait quelque chose. Donc, dans le cœur de Dieu, Dieu n'est jamais pour le péché, Dieu n'est jamais pour le divorce. Mais quand il y a eu un divorce, qu'est-ce qu'on fait quand on est remarié? Est-ce qu'on garde la pensée qu'on est une deuxième classe dans le corps de Christ et que Dieu nous aime pas? Absolument pas. Si vous êtes divorcé et remarié, vous devez entrer dans la position du pardon. Et des fois, vous dites, oui, mais c'est même pas moi qui est coupable du péché. Ben, exactement. Une raison de plus pour vraiment être pas culpabilisé. Mais de toute façon, si vous êtes là, le divorcé, celui qui a été divorcé, vous devez être libéré de tout doute et de toute condamnation. Parce qu'il y a des esprits religieux qui veulent rendre les gens condamnés, les rendre avec des sentiments tout négatifs, des sentiments comme, oh, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, j'ai pas mon... En tout cas, il y a toutes sortes de pensées. Il y a des esprits religieux aussi qui veulent attaquer les gens, les empêcher d'entrer pleinement dans leur appel. Mais vous savez, ça, c'est pas le cœur de cette maison. Si vous avez été divorcé, remarié, aujourd'hui, ce qu'on veut faire pour vous, on veut s'assurer que vous aurez les clés pour bâtir votre mariage dans la paix. Vous avez pardonné, vous avez relâché les choses du passé et là, vous êtes prêt à aller de l'avant. Amen. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Et on voit, selon la parole de Dieu, Dieu nous donne des raisons légitimes, et c'est certain que c'est jamais le cœur de Dieu, c'est pas notre cœur pour vous. Et on pourra jamais vous dire, ah bien oui, c'est une bonne chose de vous divorcer, comme une femme, une fois qu'elle avait appelé mon épouse, ah ben j'ai tombé en amour avec un autre homme, prie que mon divorce puisse bien se passer. Non, on fera jamais ça pour vous. On ne prend pas le mariage légèrement, c'est vraiment sacré devant Dieu, c'est une alliance devant Dieu, et puis on va tout faire pour vous aider à bâtir votre mariage et vous aider à réussir, parce que c'est ça le cœur de Dieu pour vous. Mais ceci dit, il faut parler de ces choses vraies, parce que dans notre société, si on fait semblant qu'il n'y en a pas de divorce et remariage, bien on est sur une autre planète. Mais on n'est pas sur une autre planète. Nous sommes ici, à Granby, au Québec, en Amérique du Nord, et puis on le sait que ça l'arrive. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bâtir et aller de l'avant. Gloire à Dieu. Donc, jusqu'à présent, on a vu deux points, des clés élémentaires et être véritablement et sérieusement engagé. Bon temps, mauvais temps, on veut vraiment choisir l'amour en tout moment. Là, une autre chose qu'on veut voir ensemble, c'est savoir aimer l'autre divinement. OK? Donc, si vous êtes prêt aujourd'hui à faire le ménage, si vous avez eu des doutes dans le passé, toutes sortes de choses, vous étiez là en train de vous remettre en question. Là, si vous êtes prêt à faire le ménage et dire, OK, là, je veux mettre de côté mes questionnements, la condamnation religieuse, toutes ces choses-là qui m'écrasaient. Là, je fais un gros ménage. Et là, je suis prêt à apprendre comment avancer maintenant dans mon mariage. Et encore une fois, je vous dis, si vous n'êtes pas marié, bien, préparez-vous à vous marier et apprenez ces choses-là parce que ça va vous aider pour votre mariage futur. Si vous êtes déjà dans un mariage et vous dites, ben on a de la difficulté, on a des problèmes, gloire à Dieu, pas pour les problèmes, mais gloire à Dieu parce que vous êtes ici et ce matin, vous allez recevoir ces clés-là qui sont super importantes pour vous. Donc, si on veut savoir aimer l'autre d'une façon divine, divinement, avec le cœur de Dieu, je vais vous donner les choses qu'on doit choisir à implanter dans nos vies. Et si vous le faites, vous allez être béni. Gloire à Dieu. Première chose, nous devons adopter les priorités de Dieu dans notre mariage. Nous devons adopter les priorités de Dieu dans notre mariage. Luc chapitre 10, verset 27, je vais vous préparer à lire ce texte-là dans quelques instants. Je vous donne les priorités selon Dieu. La priorité numéro un dans votre vie de couple, dans votre mariage, premièrement, c'est Dieu. Dieu qui est numéro un. Ensuite, votre épouse, votre époux. Ensuite, vos enfants. Ensuite, votre église. ensuite votre travail et ensuite vos amis. Je vais répéter. Dieu numéro un, votre épouse ou époux numéro deux, vos enfants, par la suite votre église, votre travail et finalement vos amis. J'ai rajouté les amis parce que des fois on n'en parle pas, mais c'est une réalité, on a des amis. Dieu numéro 1. Dans Luc chapitre 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Donc, Dieu devrait toujours être le centre de notre vie. On devrait vraiment vouloir plaire le Seigneur et mettre toute notre vie, toujours avec la pensée que le Seigneur me dirige, que je veux bénir le cœur de Dieu. Donc, Dieu est avant tout celui qu'on a numéro 1 dans notre priorité. Et une des choses qu'on doit clarifier, Dieu n'est pas l'Église. Dieu n'est pas le ministère. Et des fois, quand il y a des désordres dans la vie d'un couple, c'est parce qu'on a mal compris. Quand on met Dieu numéro un dans notre vie, ça veut dire que notre temps de prière avec le Seigneur, notre consécration, notre temps de lecture de la parole, notre temps avec le Seigneur est vraiment là, présent. C'est la chose qui bat le plus, notre temps avec le Seigneur. Notre cœur, il bat pour être avec le Seigneur. Donc, c'est numéro un. Les valeurs de Dieu, c'est nos valeurs. On veut marcher avec le Seigneur dans notre vie. Et là, par la suite, on veut vraiment aimer le Seigneur pour bien aimer notre épouse ou notre époux. Si vous placez votre épouse ou votre époux avant Dieu, le restant de votre vie va mal aller. C'est vraiment vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben moi, je veux faire plaisir à mon épouse ou mon époux, donc je vais mettre Dieu de côté. Mais vous savez, c'est pas une façon d'aimer véritablement votre épouse ou votre époux. Si vous mettez Dieu numéro un, vous allez vraiment être rempli de l'amour de Dieu et cet amour va découler sur vous, en vous et à travers vous et vous allez vraiment pouvoir aimer votre épouse. Ensuite, il y a des gens qui disent, oui, ben pour moi, là, c'est mes enfants qui sont prioritaires. Mais c'est un désordre. Si c'est vos enfants qui sont numéro un avant votre épouse ou avant votre époux, bien là, encore une fois, vous allez avoir des problèmes de couple. Parce que le mari va dire, ben là, comment ça, c'est toujours les enfants avant moi, là? On s'est marié avant d'avoir des enfants, puis là, j'ai jamais de temps pour toi, là, ou t'as jamais de temps pour moi, plutôt. Tu sais, j'aimerais ça sortir, faire des choses, mais c'est toujours, toujours, toujours les enfants. Je sais, aujourd'hui, je peux parler à des gens qui ont des cordes sensibles. Peut-être on va entendre des guitares bientôt. Ding, ding, ding. Ça dérange pas. Vous êtes ici parce que vous avez besoin de l'entendre. Amen. Mais c'est vrai, il y en a des fois, c'est comme je mets tout mon accent là sur mes enfants. C'est un désordre dans votre couple et ça doit changer. Gloire à Dieu. Il y en a d'autres, c'est l'Église. On vit juste pour l'Église. Et ceux qui peuvent être plus tentés de vivre ça, c'est les gens qui sont à temps plein dans le ministère. Ça pourrait être bon piège. Et je peux vous dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Quand je me suis marié, Mathilde, elle savait que j'étais dans le ministère et qu'on était appelé aussi à avoir une église. Et au début, elle avait peur de me marier. Elle dit, je suis pas sûre. Elle dit, j'ai peur que tu vas devenir comme les autres pasteurs qui passent comme toutes les brebis, avant notre relation et que tes enfants, tu vas oublier que tu as des enfants. J'ai peur de te marier parce que j'ai vu tellement de pasteurs, ils ont passé tout le temps, tout leur temps dédié aux autres et jamais à la famille. Et je peux vous dire, c'est une réalité puis ça pourrait facilement arriver. Savez-vous ça? C'est possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai dit à Mathilde, avant de la marier, j'ai dit, écoute bien, mon premier ministère, ça va être ma famille. C'est toi et ma famille. Si jamais le ministère prend trop de place, je vais quitter ce ministère-là pour me concentrer sur toi. Et parce que c'est certainement Dieu en premier et après ma relation avec ma femme, mes enfants. Et là, après, découle le ministère. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, si on ne comprend pas que notre premier ministère est dans notre propre salon, on peut gagner la planète pour Jésus-Christ et nos enfants ne sont même pas sauvés. Et c'est pas ça que je veux vivre. Et c'est pas ça que je vais vivre. Parce que ma famille, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Amen. Donc, et j'ai déjà été dans une situation comme ça où je voyageais beaucoup, j'allais faire des conférences et j'étais toujours parti. Et là, après un bout de temps, ma femme elle m'a parlé de ça. Puis en même temps, je le savais dans mon cœur. J'ai dit, je peux plus rester dans ce ministère-là, ça prend trop de mon temps. J'ai plus de temps de voir ma famille, j'ai plus de temps de voir mes enfants. Et j'ai quitté le ministère. J'ai dit, on passe à une autre saison, à une autre étape. Donc, faut prendre des décisions dans la vie, avoir des bonnes priorités. Donc, Dieu, épouse, enfant, église et travail. Il y a des gens qui vivent toute leur vie pour leur travail. Et puis ils prennent pas le temps de prier et chercher la face de Dieu. Si Dieu est numéro un dans votre vie, c'est pas votre travail, parce que Dieu est votre source. Donc, si vous dites, oui, mais moi, je suis obligé de déménager de région, j'ai eu un transfert d'ouvrage. Mais attendez, avant de transférer, avant de déménager, priez Dieu, consultez numéro un. Et peut-être Dieu va vous dire, mais sais-tu, je veux que tu fasses d'autres choses maintenant. Ça se peut que Dieu va vous dire ça. Peut-être il va vous dire, ben déménagez, oui, j'aimerais ça maintenant, tu vas aller servir dans une autre église, dans une autre région, et là, Dieu va vous déplacer, ça se peut. Mais ne changez pas de région, ne changez pas comme ça automatiquement, comme si Dieu ne faisait pas partie de votre vie. Amen. Donc, la première chose, Dieu numéro un, il y a des gens qui sont guidés constamment par leur travail. Et on dit, ouais, mais c'est mon revenu, je suis obligé. Non, vous n'êtes pas obligé. Si votre travail est votre source dans la vie, oui, vous êtes obligé. Mais si Dieu est votre source, Dieu va prendre soin de vous. Amen. Non, mais c'est vrai ça. Puis ça prend une révélation, mais je l'ai vécu dans ma propre vie, puis je l'ai déjà raconté. Mais notre travail n'est pas notre source. Dieu est notre source en toutes choses. Et si Dieu, admettons, vous avez un transfert, ils disent, ben là, la compagnie déménage en Chine, ben ça veut pas dire que vous allez déménager en Chine. Vous avez peut-être dit, ben je vais prier Dieu. Mais des fois, c'est juste comme, ben vous allez déménager à Val-d'Or. Là, ça, c'est, OK, Val-d'Or, c'est moins loin. Hein, c'est loin quand même. Mais admettons, ben là, l'usine déménage à Val-d'Or, et là, c'est ça. Priez, cherchez Dieu. C'est vrai. Amen. Cherchez Dieu. Il va peut-être vous dire, non, déménage pas à Val-d'Or. T'es impliqué dans ton église locale et il y a un ministère dépendant sur toi présentement. Il y a plein de gens qui ont besoin de toi dans ce ministère-là. Mais regardez, si vous avez travail, Dieu, épouse, enfant, église, dans le fin fond, vous allez vivre votre vie d'une façon désorganisée. C'est Dieu, épouse, enfant, église, travail, ami. Amen. Donc, je vous donne juste les priorités de Dieu. Mais premièrement, aimez Dieu, parce que vous savez, si vous avez Dieu toujours comme numéro un dans votre vie, le restant de votre vie va bien aller. Puis des fois, les gens ne me croient pas, là. Mais croyez-moi, enfant de Dieu. Croyez-moi, si vous mettez Dieu numéro un, quand Dieu va vous parler, il vous dit « fais ci, fais ça », obéissez. C'est simple. Faites juste ce que Dieu vous dit, ça va bien aller. C'est vrai. Je sais, c'est facile de le dire, mais je l'ai vécu aussi. C'est pas comme si je parle à travers mon chapeau. Je l'ai vécu, puis Dieu est toujours fidèle. Dieu, vraiment, là, Dieu est toujours fidèle. Il nous laisse jamais tomber. J'aimerais tellement ça, des fois, vous le prouver. Puis des fois, je peux voir des choses, puis dire, regarde, Dieu ferait ça, là. Mais on doit faire confiance à Dieu. Et Dieu va le faire. Puis des fois, Dieu va dire, regarde, va-t'en à Val-d'Or. Puis, oui, j'ai une nouvelle saison pour toi à Val-d'Or. Et là, Dieu va vous donner un feu et une joie pour Val-d'Or, admettons. Puis là, vous allez dire, ben, je m'attendais pas à ça. Mais ça m'a donné tellement un feu, tellement une joie. Puis je le sais qu'il y a quelque chose d'excitant qui m'attend là-bas. Et je vais faire une révolution à Val-d'Or. Les gens à Val-d'Or, bonjour. Non, mais je vous donne ça comme illustration. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Ça ne veut pas dire que vous êtes stagnant. Non, mais si Dieu est numéro un, peu importe les décisions dans votre vie, Dieu va prendre soin de vous, Dieu va vous guider et vous allez être heureux dans votre mariage. Donc, la première chose, savoir aimer divinement, c'est avoir les bonnes priorités. Si vous avez les mauvaises priorités, vous aurez des problèmes dans votre couple. Une autre chose, là ici, on a parlé de Dieu, épouse, on va parler époux-épouse. Nous devons choisir l'honneur et le respect mutuel. Si vous voulez être heureux dans votre mariage, vous devez absolument choisir de marcher dans l'honneur et le respect mutuel dans votre relation, l'un envers l'autre. Dans Éphésiens 5, verset 33, Éphésiens 5, 33, dans la Bible du Sommeur, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Il y en a qui vont dire, ouais, ben, comment ça, la femme, elle est appelée à respecter son mari, puis là, le mari se fait juste dire, ben, aime ta femme. Vous allez voir, dans 1 Pierre 3, 7, maintenant, c'est le tour des maris. Ça dit, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ici, là, ça nous dit, Marie, aimez vos femmes, respectez vos femmes et femmes, respectez vos maris, aimez vos maris. Puis on dira, ben c'est pas du chinois, ça, c'est assez simple à comprendre. Mais combien de couples ont des problèmes dans leur couple parce qu'il y a un manque de respect. Il y a un manque de galanterie, même de la part de l'homme. Vous savez, c'est encore correct d'ouvrir la porte à notre épouse. Hein? D'ouvrir même la porte de l'auto, je le fais pas souvent, là. Mais ça peut arriver. Hein, c'est vrai, on peut le faire, ouvrir la porte à notre femme, montrer, hey, je t'aime, puis une petite douceur, ça coûte rien ça. C'est que vous ouvrez la porte à votre épouse, mais surtout des magasins, ça c'est important. Vous passez pas devant votre femme, hey, je vous donne juste des cours de galanterie là. Mais c'est vrai, moi j'étais petit, ma mère elle me disait, tu m'ouvres la porte, là, ma mère a passé devant moi. J'ai toujours ouvert la porte à ma mère parce que j'ai été inculqué comme ça. C'est effronté de le faire autrement. C'est que je suis pas capable devant ma femme. C'est que j'ouvre la porte, n'est-ce pas, chérie? Bon, mais c'est la galanterie. Juste des choses, mais c'est de respecter et de montrer vraiment que vous aimez, vous appréciez votre femme, vous l'honorez. Et c'est la même chose avec l'épouse. Elle doit honorer son mari, puis on va voir comment on va le faire. OK, mais ici, jusqu'à présent, c'est pas trop compliqué. Si vous voulez être heureux dans votre couple, vous devez démontrer de l'honneur, vous devez respecter l'autre, qu'il se sente respecté. Là, une autre chose, nous devons choisir des paroles respectueuses envers votre épouse, envers votre mari. C'est une chose, des fois, qui me brise le cœur quand j'entends un homme abaisser sa femme ou juste taquiner. La taquiner, juste des fois, c'est des petites choses, on dit, ouais, mais c'est juste des jokes. Ne faites jamais des jokes pour abaisser votre femme ou votre mari. Ne faites jamais des jokes comme ça. Vous savez, vous pouvez imaginer toutes sortes de jokes, puis on dit, bon, mais c'est pas vrai, c'est juste des farces. Ne faites pas ça avec votre épouse, parce que des fois, il y a toujours un petit peu de vérité à quelque part là-dedans, et ça vient creuser, puis ça vient blesser. Puis ne faites pas ça. Si vous voulez être heureux, si vous voulez un mariage malheureux, ben faites ça, là. Mais si vous voulez être heureux dans votre mariage, démontrez de l'honneur et démontrez de l'amour. Il faut jamais s'amuser à diminuer ou mépriser notre épouse ou notre époux, certainement pas en public, en plus. Jamais dans la maison, jamais en privé devant les enfants, jamais en public, encore moins en public, mais jamais, jamais. Parce que vous savez, si vous êtes là dans votre maison, l'épouse par exemple, qui dénigre son mari ou qui l'abaisse, qui le méprise devant les enfants, imaginez qu'est-ce que ça fait pour les enfants. Ils voient une femme abaisser leur papa. Puis là, ils sont là. Oh, ma mère, elle trouve pas que mon père est digne de respect. Là, on est en train d'attaquer notre mari ou notre épouse. Et là, qu'est-ce que ça fait? Les enfants ont de la difficulté à respecter aussi leurs parents. Parce que les parents se respectent même pas entre eux. Donc, on veut se respecter en privé, on veut se respecter devant nos enfants et surtout en public. Des fois, moi j'ai vu ça, des hommes, on dirait, je sais pas, ils sortent de chez eux, c'est comme leur moment de la revanche, je sais pas, puis ils vont attaquer leur femme avec des amis. Et là, on est là, mettons, des amis ensemble, et là on voit le mari qui attaque sa femme. Puis là, la femme est là en train de sécher. Vous connaissez en québécois, qu'est-ce que ça veut dire là? La femme, elle sèche, là, est gênée. Ça, c'est triste. Ne faites pas ça. Enfant de Dieu, honorez votre épouse. Épouse, honorez votre mari. Parlez en bien. Si vous dites, ben là, moi, je vis tellement d'affaires, je suis tellement tanné, là, je me défoule. Non, faites pas ça. Ne vous défoulez pas devant les gens. Prenez un temps seul avec votre époux, épouse, et parlez-vous. Dites, il y a des choses qui ne vont pas. J'aimerais ça qu'on en parle, mais abaissez pas votre mari ou votre épouse. Amen. Une autre chose, je vous donne des clés là, pour être dans la joie. Ne dites jamais, tu fais toujours ça. Avez-vous déjà dit ça? Je le sais, la majorité d'entre vous, non. Mais ne dites jamais, tu fais toujours ça ou tu fais jamais ça. Je trouve que tu fais jamais ça. Mais jamais, là, c'est assez grave. Ou toujours. Tu fais jamais la vaisselle. Ben, en 1975, il avait fait. C'est pas vrai, ça. Mais c'est presque jamais, peut-être. Mais si vous voulez qu'il y ait un changement dans votre couple, ne prenez pas des paroles comme ça. Parlez plus de la place. Puis, qu'est-ce que je vous dis, là? C'est des clés super importantes qui brisent des mariages. Ou qui ne brisent pas, qui réparent des mariages. Puis, c'est important pour Dieu. Parce que si Satan peut détruire les couples, il peut détruire des églises. Puis, c'est toujours pas des choses innocentes. C'est des choses, des fois, juste qui sont pas graves. Mais Satan veut détruire des couples, détruire des familles, détruire des églises, détruire des provinces, des nations. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais aujourd'hui, on est en train de se concentrer sur des choses que Dieu veut pour nous. Qu'on soit rempli d'amour. Et dans votre mariage, que vous adoptez ces choses-là. Ne dites jamais, jamais. Ne dites jamais, toujours. Comme je viens de dire. Hein? Je l'emploie, je me contredis. Mais, passez pas votre temps à dire, hey, tu fais jamais la vaisselle, tu laves jamais la toilette, tu fais toujours des dégâts. Dites pas ça. Dites plutôt, sais-tu quand tu fais ceci, là? Moi, je ressens ça. Je ressens que tu m'aimes pas. Je ressens que pour toi, je compte pas pour grand chose parce que je vais ramasser après toi. Je donne ça comme illustration. Mais parlez plus du, je ressens ça. Ah oui, tu ressens ça, ma femme. Ah, ben, je m'excuse. Je vais faire plus attention. Vous savez, quand on parle d'une place d'émotion, je ressens, c'est beaucoup plus facile changer notre comportement que tu fais toujours ça ou tu fais jamais ça. Là, c'est une accusation. Et là, celui qui est accusé répond toujours d'une façon différente. C'est pas « Ah, c'est vrai, je fais toujours ça, je suis terrible et horrible. » Non, c'est pas la réaction typique. Comprenez-vous? Donc, nous devons choisir des paroles respectueuses. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, Bible du Sommeur, ça dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Ici, c'est un texte qui s'applique à l'Église en général. Mais dans votre couple, c'est important aussi. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Et pour certaines personnes, vous allez dire, oui, ben c'est juste une personne qui parle dans le couple, il y a comme une autre personne d'effacée. Savez-vous, des fois ça existe aussi. Des fois, il y en a qui vivent des choses plus en dedans, et c'est pas parce que la personne ne dit rien qu'elle ne souffre pas. Donc, faut faire attention comment on parle à notre personne qu'on aime, à notre époux, épouse. Faut faire attention. Et des fois, la personne a de la difficulté à s'exprimer. Mais vous l'avez mariée, vous connaissez la personne. C'est à vous de faire attention à cette personne-là pour qu'elle puisse arriver à s'exprimer, qu'elle puisse sentir qu'elle a une place à parler. Puis ça se peut des fois que la personne va être maladroite. Est-ce que ça se peut que la personne va être maladroite, elle va avoir de la difficulté à vous le dire, et peut-être ça va sortir tout croche, mais elle a de la misère. Mais comprenez ça, vous la connaissez, la personne. Vous savez qu'elle a de la misère à s'exprimer. Donc, prenez pas votre assiette puis fendre sa tête. Non, prenez le temps de comprendre et rempli de compassion. Amen. Vous vous connaissez bien. Si vous choisissez l'amour, une des choses les plus importantes, c'est de savoir vous respecter, vous honorer, marcher dans l'honneur. Et ne laissez jamais les mensonges de Satan sortir et ne maudissez jamais votre mariage. Si vous dites, ah ben nous autres, ça ne durera vraiment pas, je suis plus capable, arrêtez de dire des affaires comme ça. Si vous dites, je suis plus capable, ben je puis tout par celui qui me fortifie. Ah ben faut qu'il change, faut qu'elle change. Faut que tu changes. Une des choses que moi, je crois de tout mon cœur, des fois qu'on voit des problèmes chez l'autre, c'est parce qu'on a des problèmes nous-mêmes. Savez-vous, moi, je ne suis pas parfait. Ma femme n'est pas parfaite, mais moi non plus, je ne suis pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne de parfait dans la vie. Sauf que si on réalise, on n'est pas full orgueilleux, on sait, je suis imparfait. Seigneur, pardonne-moi, change mon cœur. Peut-être, vous dites, ben là, à chaque fois qu'elle fait ça, là, ça vient me chercher. Mais peut-être, c'est parce que vous avez un problème dans votre cœur, puis votre réaction est mauvaise, puis là, ça fait des toutes sortes d'affaires. Si on est humble, puis on dit, peut-être j'ai des choses aussi à changer. Ben, priez pour vous-même. Seigneur, change-moi la façon que je réagis. La façon que je réagis dans telle ou telle situation. Je suis en train aujourd'hui de vous donner des conseils là, pour avoir un bon mariage. Moi, je peux vous dire on a un bon mariage. Mathilde et moi, on est bénis, on est heureux. Quand on s'est mariés, c'est comme si on était toujours ensemble. Il y a des gens qui ont dit, est-ce que vous avez vécu un temps de transition? Tu sais, des fois, au début de la vie de couple, vous vivez des choses difficiles. Nous, c'est comme, non, on dirait qu'on a toujours été ensemble. On était super bénis du début jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas appris des choses. En passant, ma mère, là, écoutait du Focus on the Family chaque jour de sa sainte vie. Et chaque repas de ma sainte vie, j'ai été exposé aux enseignements de Dr. James Dobson. Puis là, elle nous répétait tout ce qu'elle avait appris. Puis dans un garde-robe chez mes parents, dans une bibliothèque, il y a plein de livres sur le divorce, remariage, les problèmes de couple, toutes les choses faites comme imaginez. Puis si quelqu'un arrivait chez mes parents, la personne pourrait dire, hey, ils ont des problèmes de couple, eux autres, regarde. Là. Non, ma mère, qu'est-ce qu'elle disait? Elle dit, je lis ça, puis elle dit, je vois toutes les bonnes choses qu'on fait, puis elle dit, ça me réjouit. Ma mère, mais pas arrogante, ma mère, mais c'est juste, et comme ça, elle lit, ah oui, on fait ça, oui, ah ça. Puis elle aime ça, je ne sais pas pourquoi, mais elle aime ça. Puis là, elle me disait, Joël, la façon qu'il faut que tu traites ta femme, c'est comme ça. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Que là, j'ai été inculqué depuis l'âge de 5 ans, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Sauf que là, j'essaie de faire ci, puis ça. Mais peut-être, vous avez eu un mauvais modèle. Peut-être, votre père, il donnait des coups de poing à votre femme, à votre mère. Peut-être, vous avez vu l'abus dans votre famille. Peut-être, vous avez vu toutes sortes de modèles terribles. Puis là, vous vous mariez, vous êtes chrétien, puis vous savez pas comment vivre la vie chrétienne dans un couple. Mais là, on est ici ensemble aujourd'hui pour le découvrir. Puis là, vous allez pouvoir dire, ben là, je vais toujours honorer mon épouse. L'épouse va dire, je vais toujours honorer mon mari. Et là, peut-être vous dites, oui, mais ça va me prendre du changement, je vais devoir changer, moi, quelque part. Et oui, vous allez peut-être devoir changer, mais vous n'êtes pas venu à l'église ce matin pour rester pareil. Non. Puis si vous dites, ben moi, je suis déjà comme ça, c'est juste l'autre qui est comme ça, qui n'est pas correct. Au nom de Jésus, on chasse ça de cette maison. Ça se peut pas que c'est juste une personne qui est en défaut. en passant. OK. Je termine. Ça se peut qu'il y en a un qui en fait plus que l'autre, mais peut-être si vous changez, puis vous êtes rempli plus d'amour, l'autre personne va plus changer, puis vous allez redécouvrir l'amour passionné de gloire. Nous devons choisir de vivre en harmonie. En terminant, mon dernier point, non, c'est pas mon dernier, excusez-moi. Bon, nous devons choisir de vivre en harmonie. Comme j'ai dit, on choisit l'amour, on choisit de prononcer des bonnes paroles, des paroles qui vont venir bâtir notre épouse, époux. Mais là, ensuite, il faut faire attention à l'esprit de contrôle, de jalousie, de soupçon. Il y a des couples, des fois, que c'est la femme qui gère, des fois, c'est le mari qui gère, puis il y a un esprit de contrôle dans le couple. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et on s'imagine qu'il parle à un chien, pas des enfants, parce qu'on contrôle même pas nos enfants. On éduque nos enfants dans les voies de Dieu, on ne contrôle pas nos enfants. On n'est pas appelé à faire ça. On est appelé à enseigner nos enfants comment marcher avec Dieu et prendre des bonnes décisions. On leur démontre les conséquences, les choix, tout ça. On n'est pas là pour les contrôler. Dieu ne nous appelle pas non plus à être contrôlés par lui. On a une décision à prendre, des décisions. Mais dans le couple, des fois, c'est la femme, elle dit, tu vas te lever, tu vas faire la vaisselle. Je donne ça comme exemple. Puis elle parle à son mari comme ça. J'ai vu des fois une femme adresser la parole à son mari sans respect, comme si c'était un enfant ou un chien. Fais ci, fais ça. Ah oui, vite, brusque. Mais et où l'amour? Quand vous êtes marié, là, est-ce que vous parlez comme ça, vos vœux? Oui, je le veux. Putain, mais te chérir. Bon. Non, quand vous êtes marié, c'était pas brusque comme ça, puis sec, puis impatient. Pourquoi tu me poses encore ça comme question? Le Saint-Esprit fait du changement aujourd'hui. Et faites attention à l'esprit de contrôle, vouloir tout gérer. Faites confiance à l'autre personne. Ça se peut que l'autre personne ait aussi une tête sur les épaules. Elle aussi est peut-être capable de penser et peut-être contribuer. Puis dire, regarde-moi, là, je pense qu'on devrait faire ça comme ça. Puis là, parlez-en. La communication, c'est super important. Épouse, vous n'êtes pas la mère de votre mari. Époux, vous n'êtes pas le père de votre épouse. Alléluia! Proverbe 14:1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée ou stupide la renverse par ses propres mains. Aujourd'hui, c'est pas pour piler sur des orteils, c'est pas pour aller chercher des émotions dans vos cœurs. Oui, c'est pour ça, mais c'est pas juste pour vous déranger. C'est pour amener un changement, que le Seigneur vous montre des choses. Si vous êtes là, moi, c'est vrai, je parle pas toujours d'une façon respectueuse. C'est vrai, peut-être je dois être ennuyante ou ennuyant. Ça se peut que je suis comme ça. Mais gloire à Dieu, vous êtes encore vivant, vous respirez encore, puis vous pouvez faire du changement et votre témoignage, plus tard, ça va être, « Hey, j'étais comme ça, mais Dieu m'a tellement changé. » Et c'est ça, c'est merveilleux. Faites attention aux relations aussi qui divisent. Si dans votre couple, vous avez des problèmes, là, tenez-vous pas avec des gens qui sont toujours en chicane. C'est une grande révélation. Si vous tenez toujours avec des gens qui sont eux-mêmes toujours en division, ben faites attention. Il y a des gens aussi que vous avez côtoyés qui sont toujours des gens critiqueux, qui divisent. Ils ont un esprit, comme des esprits familiers. Ils ne savent même pas, mais ils sont comme animés par des esprits de division. Là, vous côtoyez ces gens-là, et vous dites, mais je comprends pas, ça allait bien avant. Mais là, depuis qu'on se tient avec eux, on a des problèmes dans notre couple. On dirait, il y a plus de friction, il y a une froideur. Faites attention avec qui vous vous tenez. Parce que des fois, là, des personnes comme ça peuvent venir diviser votre couple et vous ne savez même pas pourquoi. Vous voulez vous entourer des gens qui croient Dieu et qui marchent dans l'harmonie eux-mêmes dans leur vie. Hein, c'est super important, les gens avec qui on s'entoure. Donc, faites attention à ça. Si vous voulez être heureux dans votre mariage, entourez-vous de gens heureux. Ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas aider des gens. S'il y en a qui disent, oui, mais on a des amis, ils ont des problèmes de couple et on veut les aider. Oui, aidez-les, mais soyez conscients de ce que vous devez faire. C'est vraiment prier pour votre protection divine et de vous investir avec une mesure biblique. Marcher dans l'amour et le pardon aussi. 1 Pierre 4:8, ça dit « L'amour pardonne un grand nombre de péchés. » 1 Pierre 4:8, « L'amour pardonne un grand nombre de péchés. » C'est une des choses qu'on doit comprendre aussi. Marcher dans l'amour et le pardon, puisque personne de parfait sur cette planète, vous réalisez que vous aussi, peut-être, vous avez besoin de pardon. Donc, vous devez aussi demander pardon et relâcher la personne quand elle fait des choses mauvaise. Éphésiens 4, versets 26 à 27, ça dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Écoutez bien, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous êtes en chicane dans votre couple, n'allez pas vous coucher sans avoir régler la situation. Si vous êtes frustré, il y a quelque chose, il y a un froid, et puis là, vous allez vous coucher, vous êtes juste en train d'enterrer cette chose-là, et là, vous passez une autre journée, vous enterrez les émotions, vous enterrez, et après un bout de temps, il va y avoir quelque chose qui va remonter, et ça va exploser, puis des fois, ça fait des dégâts. Non, la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Réglez les choses à chaque jour. S'il y a des choses qui vont pas dans votre couple, vous dites, écoute, aujourd'hui, quand tu m'as humilié devant nos amis, ça m'a vraiment fait la peine. Là, vous réglez ça là. Attendez pas une semaine, deux semaines, trois semaines ou deux ans. Faites-les le moment que vous en avez besoin. Amen. Et là, dans Éphésiens 4, versets 31-32, que toute amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si on réalise, on a tous été pardonnés, c'est à nous aussi de pardonner l'autre. Mon dernier point. Nous devons investir du temps à développer notre amour. Si vous êtes marié, Dieu est numéro un dans votre vie, mais ensuite, vous devez prendre soin de votre épouse ou de votre époux. Si vous voulez être heureux, Dieu nous le montre clairement, on doit s'aimer véritablement. Il faut investir du temps, dites du temps. Là, vous vous réveillez, et là vous allez dire avec foi, du temps. C'est vrai, on est là, avant de se marier, on va au restaurant, on passe des soirées à jaser ensemble, on passe du temps. Et là, on met l'anneau au doigt, et là, on fait d'autres choses, on se parle plus, on se voit plus. Et là, on dit, elle a donc bien changé, je comprends rien, et plus fine comme avant. Mais peut-être elle est irritable parce qu'elle ne te voit jamais. Peut-être c'est ça. Mais c'est vrai, si vous voulez être heureux dans votre couple, passez du temps ensemble. Sortez votre femme, messieurs. Dites, hey, ma chérie d'amour de gloire, je t'invite à venir avec moi. Je vais aller au restaurant avec toi. Amenez-la dans un beau restaurant autre que Valentine. Même s'il y a des cœurs sur les murs, c'est pas romantique. Amenez-la dans un vrai restaurant, sans parler de contre Valentine, là. Si c'est romantique pour vous, allez-y. Mais allez, sortez votre épouse des fois. Ben oui, mais on n'a pas le budget. Faites un pique-nique. Ça coûte rien. Organisez un pique-nique, peu importe. Mais prenez soin de votre épouse. Démontrez-lui comment vous l'aimez. Et là, vous la sortez. Ça se peut même que vous allez aller au cinéma ensemble. Peut-être. Sortez votre femme. Mais vous dites, oui, mais... Si vous n'investissez pas le temps, si vous n'investissez pas l'argent dans votre couple, vous allez l'investir dans votre divorce. C'est vrai. Donc, c'est vraiment vrai. On ne peut pas passer à côté. On doit passer du temps pour entretenir notre couple. On n'est pas là juste pour travailler. On n'est pas sur cette planète juste pour faire des choses. On doit s'investir parce que l'amour se travaille. Amen. On prend la décision, mais les émotions aussi viennent là quand on est prêt à s'investir soi-même dans notre mariage. Gloire à Dieu. Vous devez répondre à votre appel divin ensemble, parce que Dieu a placé un appel sur votre vie et Dieu, Satan, il veut pour vous que vous puissiez entrer dans votre appel de couple ensemble. Amen. Donc, pour être ensemble, vous devez être ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez tous un appel. Des fois, peut-être juste le fait de dire, on a un appel commun. Quand vous êtes marié, c'est sûr que Dieu a un appel pour votre vie. Comme le fait que moi, je suis dans le ministère, bien, ma femme est aussi appelée au ministère avec moi. Elle n'est pas appelée à rester chez elle puis faire du tricot les dimanches matins. Mais non, mais ensemble, nous servons le Seigneur. Mais vous dites, oui, mais moi, je suis ici puis l'autre personne est ça. Peut-être que c'est pas la même affaire, mais vous allez quand même faire quelque chose ensemble. Mais si vous n'êtes jamais ensemble, si vous n'avez pas de relation vraiment, vous ne pourrez pas entrer dans votre appel ensemble. Dernier point, hey, ça fait trois fois je dis ça. Ayez du plaisir ensemble. C'est une révélation que plusieurs chrétiens ont besoin d'avoir. Le mot plaisir n'est pas péché. Ayez du plaisir, sortez, faites quelque chose de fun au nom de Jésus. Tu ben là, c'est pas spirituel. Oui, c'est spirituel. Si vous avez du fun, vous êtes heureux, vous allez entrer à l'église avec un sourire sur votre visage. Et ça va nous inspirer et on va dire, on veut faire comme vous. Ça fait que passer du bon temps ensemble, c'est vrai. Oh, quelle révélation, je sais ce matin. Mais si on prend pas le temps là, de parler de ces choses-là, pratique, là, super pratique, il n'y a pas une grande révélation surnaturelle ce matin. On va réserver ça pour la semaine prochaine. Mais ce matin, qu'est-ce qu'on veut dire ce matin? C'est des choses pratiques pour que vous puissiez être heureux dans votre couple, pour que le Seigneur puisse bénir votre couple, pour que vous puissiez avancer dans les voies de Dieu, dans la joie, que votre foyer soit béni, que vos enfants aient un modèle d'un couple heureux, d'un couple béni. Je peux vous dire, mes parents, là, je les ai toujours vus heureux. Ils ont été bénis dans leur marche chrétienne. Ils ont toujours été un modèle pour moi. Et je n'ai pas eu peur de me marier, parce que pour moi, le mariage, c'était une belle chose. Mes parents étaient heureux, romantiques. En plus, mes parents, dans le temps de Steinbergs, ils se promenaient main dans la main à l'épicerie, en faisant l'épicerie. Et je me souviens, il y avait un monsieur, une fois, qui est allé voir mes parents. Puis il a dit, vous, là, vous êtes le couple, vous marchez toujours la main ensemble. Hein? Ça fait des années que je vous vois. Vous semblez en amour. Et oui, c'est possible d'être en amour des années plus tard. Amen! Mais ça prend de l'investissement. Amen. Là, j'ai dit plusieurs choses ce matin. J'ai invité l'équipe de la louange. C'est un message peut-être différent. Mais Dieu aime les mariages heureux. Et Dieu veut que vous soyez heureux. Et pendant que j'invite toute l'équipe de la louange, je veux prier pour les couples ce matin. Peut-être qu'il y a des couples ici où vous ne marchez pas dans l'unité. Peut-être qu'il y en a un qui a accepté le Seigneur, puis peut-être que l'autre n'a pas accepté encore. Aujourd'hui, ça peut changer, ça. C'est facile. C'est facile pour nous d'être transférés d'un royaume à un autre. Si vous dites, ben, le premier point est un foyer heureux, ben, c'est un foyer chrétien, un mariage chrétien, bien, je suis pas encore chrétien, moi. Peut-être, si c'est votre cas, ben, Dieu est ici par son Saint-Esprit et il dit, hey, viens dans mes voies. Oui, je veux t'avoir, je veux te recevoir. J'aimerais ça aujourd'hui ouvrir la porte. Si quelqu'un dit, moi, là, toute la belle vie en Jésus, je veux l'avoir. Je veux être pardonné de mes péchés. Le poids qui m'écrase, tous ces péchés-là qui m'écrasent, qui m'enlèvent la joie de vivre, je veux être libéré de ça. Mais gloire à Dieu. Dieu est là pour vous recevoir aujourd'hui, pour recevoir votre cœur repentant qui dit, je veux être pardonné. Si vous êtes un couple aussi, vous êtes chrétien, vous avez déjà fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, mais il y a des choses que vous avez vues pendant que je racontais plein d'histoires, puis pendant que j'ai partagé mon cœur que le Seigneur m'a donné aujourd'hui pour vous, qui est cœur de Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes là puis vous dites, dans notre couple, ça va pas vraiment bien. Je ne vous demanderai pas de lever la main. Je veux pas humilier personne. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prier ensemble. On va prier pour chaque couple dans l'Église, à votre place, et on va prier que Dieu restaure. Si là, peut-être, vous avez besoin de demander pardon à votre mari, à votre épouse, j'aimerais ça vous encourager. Faites-le aujourd'hui. Dites aujourd'hui. Si en sortant de cette place, vous dites, ben c'est vrai, là, je te parle pas vraiment de façon respectueuse, ou je t'ai pas vraiment montré de l'honneur, je t'ai pas chéri vraiment. Aujourd'hui, changez au nom de Jésus. Dites-moi, là, je veux vraiment t'honorer. Quand j'ai parlé contre toi devant les enfants, je te demande pardon. Et demandez pardon à vos enfants aussi. Dites, quand là, papa, moi je l'ai fait, j'ai fait ça une fois, mais c'est parce que je parlais à ma petite fille d'une façon bête. J'ai dit, papa, te demande pardon parce que je t'ai parlé d'une façon bête. Mais peut-être que vous avez parlé d'une façon bête avec à votre épouse ou votre mari. Dites, hey, les enfants, vous savez, des fois, là, papa ou maman agit pas d'une bonne façon. Je vais vous demander pardon aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a pris une décision en Église là, qu'on va tous vraiment marcher dans l'amour. Puis nous autres, on veut changer. Puis là, les enfants vont dire, ah oui, ils prennent une décision. Mes parents peuvent se faire enseigner par Dieu. Wow, quel témoignage. Eux aussi, peut-être, ils vont changer dans d'autres choses, d'autres dimensions de leur vie. Amen. Vous pouvez commencer à jouer juste une pièce, puis on va prier ensemble. Je vais vous demander tous, penchez vos têtes pendant quelques instants. Penchez vos têtes, fermez les yeux par respect pour tout le monde. Si s'il y a quelqu'un qui dit, j'ai pas encore donné ma vie au Seigneur Jésus, j'aimerais ça aujourd'hui faire partie de cette famille royale de Dieu. J'aimerais ça donner ma vie au Seigneur. Montrez-moi simplement en levant votre main et vous dites, moi je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux te pardonner de mes péchés. Je veux te pardonner de mes péchés. Amen. Merci, super, super. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui disent, moi j'aimerais, est-ce que mon micro fonctionne toujours? Oui, ok. J'aimerais ça donner ma vie au Seigneur Jésus. J'aimerais ça donner ma vie au Seigneur Jésus. Mais gloire à Dieu. On va prier toute l'Église ensemble. J'aimerais ça vous demander, si vous ne l'avez jamais fait, aujourd'hui, là, c'est une journée merveilleuse parce que vous allez être transféré du royaume des ténèbres. Vous allez entrer dans la lumière. Vous pourrez vraiment avoir la plus glorieuse vie en Jésus, sachant que votre place est réservée au ciel, sachant que vos péchés sont pardonnés. Je vous invite à prier avec moi maintenant. Père éternel, je veux te demander aujourd'hui de me pardonner de tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Je reçois le don de la vie éternelle aujourd'hui même. Merci de me recevoir dans la famille royale de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. À la fin, j'aimerais ça demander ceux qui ont levé la main pour la première fois, j'aimerais ça vous inviter à aller rencontrer la dame en arrière qui est là, ma mère, si tu veux te lever. Juste, elle est là avec, et elle va vous remettre un Nouveau Testament. Et puis, on veut vraiment vous souhaiter la bienvenue dans la famille de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Soyez pas écrasés. Si vous voyez, c'est comme, on se laisse une montagne, on y arrivera jamais. Ne croyez pas ce mensonge-là. Ne croyez pas de mensonge. Gardez votre espoir dans le Seigneur aujourd'hui. Et une autre chose que vous devez savoir, vous devez être patient. C'est pas parce que vous avez entendu un message aujourd'hui que votre mari ou votre épouse va être différent dans 2 secondes. Vous devez être patient. Dites patient. Laissez le Saint-Esprit changer votre mari, votre épouse. Laissez le Saint-Esprit faire. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Mais vous, laissez le Saint-Esprit vous changer. Laissez le Saint-Esprit vous changer. Croyez Dieu pour votre mari, votre épouse, mais ne soyez pas le Saint-Esprit, enfant de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas, mais le pasteur a dit ça, là. Laissez le Seigneur vous rappeler ce que le pasteur vous a dit. Mais laissez le Seigneur restaurer votre couple. Le Saint-Esprit fait le meilleur job que vous. Le Saint-Esprit est meilleur que vous là-dedans. Amen. Gloire à toi. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous sommes appelés, en tant qu'Église, à avoir des familles solides, des couples solides, des couples en amour, des couples qui marchent dans tes valeurs, tes principes, des couples qui sont patients, des couples loin de ton Saint-Esprit. Alléluia, merci parce que ton Saint-Esprit est ici. Ton Saint-Esprit change des vies, change des cœurs. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux prier pour chaque personne dans cette assemblée. Je veux prier, Seigneur, pour tous ceux aussi qui sont en vacances. Oh Seigneur, je prie ta protection divine pour les vacanciers. Et Seigneur Dieu, pour chaque personne qui est ici présentement, je plaide ton sang sur eux. La protection divine au nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, on prie pour les enfants aussi. Chaque personne dans toutes les familles de cette église, nous les présentons aujourd'hui. Nous décrétons sur leur tête le shalom de Dieu. Rien de manquant en toi, rien de brisé en toi. Nous sommes entiers en Jésus. Amen. Bon dimanche dans la présence de Dieu. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.